On vous a vu confiant, optimiste à côté du Premier ministre aujourd'hui pendant l'annonce de cette relance graduelle de l'économie. Relancer l'économie, pas la pandémie, c'est le leitmotiv de François Legault. Un plan de réouverture progressive qui se fera en plusieurs phases. Pour limiter les risques, vous priorisez d'abord la réouverture de 3 secteurs d'activité. La construction, autre que résidentielle, qui a déjà été réouverte. Le commerce de détail le 11 mai et 100% des employés du manufacturier le 25 mai. Est-ce que vous pouvez préciser les modalités de cette réouverture ?
Oui, écoutez, effectivement, nous avons à peu près 1,2 million de personnes qui sont présentement en arrêt de travail temporaire. Et les 3 secteurs que vous avez mentionnés vont représenter à peu près 450 000, 500 000 travailleurs qu'on peut réintégrer dans le milieu de travail d'ici le 25 mai. Donc, on a 3 pans, je pourrais dire. Le premier, c'est le commerce. Donc, nous permettons aux commerces qui ont pignon sur rue, donc qui ont une porte extérieure, peuvent opérer au Québec en excluant Montréal et la communauté municipale de Montréal, le CMM qu'on appelle, qui comprend plutôt 82 municipalités. Donc, autre que Montréal et le Grand Montréal, tout le monde peut ouvrir les commerces sur la rue.
Donc, ce sera en région d'abord.
Exact. Et pour Montréal, ça va avoir lieu le 11 mai.
Vous avez dit...
OK,
je vous ai coupé, allez-y.
Non, mais donc, c'est le 4 mai pour le Québec, sauf Montréal. Montréal, le 11 mai. C'est tous les commerces qui ont une porte à l'extérieur de la rue.
Est-ce que c'est la bonne option? Vous avez dit on n'hésitera pas à revenir en arrière, tout à l'heure en conférence de presse aux côtés du Premier ministre, s'il y avait une nouvelle éclosion. Ça veut dire quoi et quels sont les critères?
Ben, ce qui arrive, c'est que on suit évidemment la propagation des cas, l'hospitalisation, soins intensifs. Il y a plein de facteurs qu'on suit avec la santé publique. Alors, en ouvrant le 4 mai en région, nous considérons que nous avons des fondations solides. Maintenant, d'ici au 11 mai, il reste encore 2 semaines, on voit que Montréal s'en va du mauvais côté. On pourrait pouvoir retarder le 11. Présentement, sur ce que nous connaissons, nous pensons que ce sont des fondations solides qui nous permettent de réouvrir séquentiellement. Même chose pour les entreprises manufacturières. Ce qu'on fait, ce côté-là, c'est pas géographique, c'est plutôt le nombre d'employés. Donc, le 11 mai, on permet aux entreprises de travailler par corps de travail avec un montant ou un nombre d'employés, excusez, qui va être égal à 50 plus la moitié de l'excédent. Donc, c'est 200 employés sur un corps de travail normalement. Là, il va y avoir 50 plus 75, donc 125. On y va progressivement. Et le 25 mai, soit 2 semaines plus tard, à ce moment-là, les entreprises manufacturières vont pouvoir opérer comme ils le faisaient avant le COVID. Même chose côté-là, si on voit entre le 11 et le 25 qu'il y a trop grande propagation qui se fait, bien, on va absolument ne pas permettre d'aller au maximum d'employés. Et dernièrement, la construction, les chantiers de construction, ça va être réouvert le 11 mai aussi, avec, dans les 3 cas, avec des règles assez claires et strictes des règles sanitaires. Comment est-ce qu'on va faire les confinements comme pour? Comment est-ce qu'on va avoir la distanciation, le matériel de protection? Alors, on pense qu'avec une bonne communication des règles, les gens vont être confortables de pouvoir commencer à travailler sur une base séquentielle. Donc, dans le plan que je mentionne, si tout le monde réouvre, on aurait 450 000 personnes sur 1,2 million qui auraient réintégré le milieu de travail le 25 mai.
Avec, comme vous l'avez dit, toutes les précautions, masques, distanciation sociale et puis tous les gestes sanitaires qu'on demande.
Exact. Ouais. Et on sait qu'il y a des risques. Il y a des risques. C'est sûr qu'on peut avoir de la bémol qu'on a dit, c'est que, au pire, si on s'est trompé, on pourrait retourner à confinement. Ce qu'on ne veut pas, évidemment, parce que là, d'avoir deux confinements, ce serait très négatif sur la santé mentale des gens. Mais on a pris ce risque-là basé sur les informations que nous avons présentement, parce qu'on exclut les enjeux avec les CHSLD, on considère que la courbe est gérable. C'est l'opinion de santé publique.
Pour parler d'économie, en fait, le véritable redémarrage, en fait, pour vous, ce sera quand? Est-ce qu'on peut planifier ça déjà?
Écoutez, c'est une question difficile parce qu'il y a une pondération qui doit être faite. Évidemment, la construction et le manufacturier sont deux contributeurs importants à l'économie. Les commerces aussi, mais le commerce est aussi socialement sain. On se comprend qu'il y a des secteurs comme le tourisme ou comme la culture, ça va être beaucoup plus long à démarrer. On peut penser à 12, 18, 24 mois. Alors moi, je pense qu'on parle des gens qui parlent de 2-3 ans avant qu'on revienne où nous étions en termes de PIB. Moi, je pense que c'est un peu plus optimiste que ça. Mais on parle d'au moins d'un an là, ici.
Je crois que le PIB du Québec aurait possibilement chuté de 5% là, début 2020.
Ah ouais, mais écoutez, moi je pense que le deuxième trimestre, ça va être plus que ça. Ça pourrait être pas loin de 8 à 10 %. Ouais. Par contre, ça devrait repartir au troisième trimestre, c'est évident. Alors la question, c'est toujours la même chose, à quelle vitesse ça va repartir? Et là, c'est chaque chantier ou chaque pan de l'économie va avoir un retour à la normale qui va être différent. Alors, il faut faire la moyenne pondérée de tous les secteurs. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut être conservateur, dire que ça va être minimum un an et demi. Certains sont plus négatifs que ça. Moi, je suis optimiste, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas.
Alors, on en parle depuis ce matin, en fait, de l'innovation. En quoi l'innovation est la clé dans cette crise? On l'a vu avec l'exceptionnelle mobilisation des RSRI, en fait, le regroupement sectoriel de recherche industrielle du Québec. On l'a vu avec le panier bleu, ferme d'hiver. En quoi cette crise accélère la transformation numérique et on en a besoin, selon vous?
Parce que, premièrement, si on regarde le Québec avant le COVID, un des enjeux que nous avions, et qui est encore là, évidemment, c'est que l'écart de productivité de nos entreprises est inférieur à ce qu'on voit en Ontario, aux États-Unis ou ailleurs au Canada. Et pourquoi? Quand on fait la relation cause-effet, on a noté qu'il y a eu un sous-investissement en des entreprises, en innovation, soit robotisation, automatisation, numérisation. Donc, nous voulions au gouvernement contrecarrer ça en mettant des programmes en place pour permettre aux entreprises d'avoir une plus grande un plus grand support pour innover. Alors, je pense qu'en sortie de COVID, il faut maintenir, sinon accélérer cette situation parce que on veut être capable de continuer à exporter et de peut-être importer moins dans un temps plus performant. Il faut comprendre qu'au Québec, nous avons un écart, un déficit commercial sur une base internationale, donc avec les pays étrangers, de 23 milliards de dollars. Donc, on a amplement d'opportunités pour, d'une part, augmenter les exportations et d'autre part, de réduire les importations. Comment on fait ça? Nos compagnies doivent être plus performantes. Mmh.
Justement, quels sont les risques de l'économie d'après-crise? On peut parler de protectionnisme, d'inflation.
C'est une base systémique. Je pense qu'au niveau géopolitique, on va voir des paniers bleus partout. Hein. Je pense que les communautés vont vouloir être plus autosuffisantes. Je pense qu'on va avoir un phénomène qui va être assez mondial. Mmh. On voyait déjà avec les États-Unis et les Chinois. On va voir aussi des gouvernements surendettés ou avoir plus de dettes qui vont vouloir intervenir dans l'économie. Ça va être complexe. On va voir les consommateurs qui vont avoir des comportements qui vont être différents. Donc, des modèles d'affaires de plusieurs entreprises vont devoir être revus. Alors, ça va être un nouveau monde, carrément. Et tout l'enjeu des luttes au changement climatique va tout être à l'ordre du jour. Alors, il y a un paquet de facteurs qui vont être différents. On va pouvoir s'ajuster par rapport à ça, autant les gouvernements que les entreprises, que les consommateurs.
Est-ce que l'accent va être mis en place sur l'économie verte?
Ben, je pense que oui. Je pense que c'est un phénomène qui ne cessera pas. Au contraire, il va pouvoir s'aggraver. Il ne va pas s'aggraver, il va pouvoir s'amplifier. C'est un vrai mot. Parce que on n'a pas vu encore de relations cause à effet, mais plusieurs vont probablement invoquer que les problèmes environnementaux ont peut-être causé la propagation du virus. On n'est pas rendu là encore, mais c'est clair que je pense que c'est une nouvelle guerre. Hein. On sort d'une guerre présentement. Alors, est-ce qu'il va y avoir une autre guerre? Est-ce qu'il va y avoir d'autres? Est-ce qu'on est rendu dans un mode où, à cause de l'environnement, à cause d'autres facteurs, que ces pandémies-là vont refaire surface? Je pense que les gouvernements, les consommateurs vont devoir repenser à beaucoup de choses. Toute la notion de la chaîne d'approvisionnement stratégique prend une autre signification maintenant.
Est-ce qu'il va y avoir encore plus d'investissements dans l'innovation, Monsieur le ministre?
Ben, j'espère. Nous, évidemment, c'est pas à nous de faire des investissements. Nous, comme gouvernement, c'est de mettre des programmes en place pour inciter les entreprises à investir dans ce matériel. Alors, j'espère que les sociétés vont prendre confiance. Et moi, je pense que oui. Je pense que les entrepreneurs réalisent que leur compétitivité les rend plus performants pour pouvoir vendre à l'extérieur de leur milieu. Et d'autres entreprises qui vont vouloir profiter du fait qu'on veut importer un peu moins, peut-être la Chine, par exemple, va falloir commencer à être capable de produire à des coûts que les consommateurs vont accepter. Parce que c'est beau produire localement. Mais si je vous dis acheter un produit local, c'est mieux le Québec, ça me coûte 25 % plus, de dire trop cher, je ne paye pas ça, il faut aller acheter un produit chinois. Alors, il faut être capable d'être performant. Donc, tout converge vers un plus grand investissement en innovation.
Juste une dernière question. Je crois que pour la première fois, en fait, cette semaine, vous avez un Parlement virtuel. Première fois de son histoire. Comment ça s'est passé?
J'ai beaucoup aimé. C'est vendredi passé, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé parce que la problématique des parlements, des périodes de questions, ce qu'on appelle les mêlées de presse et des journalistes, souvent, on n'a pas le temps de répondre aux questions. On a 45 secondes, une minute, là, il faut aller vite, puis là, on passe à un autre sujet. Alors, cette période-là a été plus, à mon avis, intéressante parce que nous avions du temps. Les questions posées par les oppositions, c'était des bonnes questions. Ben, ça prenait une minute, deux minutes pour nous répondre. Alors, moi, j'avais l'impression que j'étais capable d'exprimer mon point de vue de façon ordonnée. Alors qu'en chambre, souvent, ben, c'est de la grosse politique, là, puis c'est du théâtre. J'aime pas le théâtre.
Donc, vous abondez...
J'aime le théâtre, mais je regarde. Pas quand je suis d'acteur.
Vous abondez pour ce Parlement virtuel, c'était bien.
Oui, absolument. Okay. Mais là, c'est sûr que ça va être difficile de faire ça. Mais en fait, c'est pas tellement le virtuel qui est intéressant, c'est le côté interpellation. Okay. Je pense que d'avoir des ministres qui sont devant des gens d'opposition, journalistes en fait, d'avoir des dedans, de dévoyer une période, une heure, dans mon cas c'était une heure, je pense que c'est une hygiène constructive pour avoir un débat intelligent et un débat constructif.